Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Des plantes aromatiques, médicinales et rebelles. Premier épisode. Reportage. La plus connue, la lavande en altitude et son hybride, le lavandin, cultivé dans les vallées. En Drôme, de la Provence aux portes du Vercors, on l'accueille et on la transforme depuis toujours, diraient certains. Après distillation, l'huile essentielle et l'hydrolat de lavande et lavandin représentent l'un des composants majeurs des produits de soins que nous utilisons couramment. En parfumerie, en phytothérapie, en cosmétique et même en cuisine, les vertus de la plante sont reconnues dans le monde. La lavande génère ainsi une activité économique considérable, mais qui, au-devant d'une industrialisation mondialisée, Bonjour. Se trouve fragilisée.
Est-ce qu'on est en avance ?
Quelques mois plus tôt, dans nos studios de radio, août 2021.
Monsieur Aubanel, vous êtes producteur de lavande à Chamaloc et vous avez aussi cette distillerie intitulée celle des Quatre Vallées. D'abord, votre sentiment en tant que producteur, pour vous, qu'est-ce que la lavande ?
Pour moi, c'est un produit qui est parfaitement naturel. C'est un produit qui a servi à soigner des gens, à parfumer depuis des centaines, même depuis des milliers d'années, parce que la trace de l'utilisation de la lavande remonte à plus de 2000 ans en arrière. Et nous, on est aujourd'hui assez stupéfaits de voir arriver des réglementations qui pourraient carrément faire disparaître la culture de la lavande, faire disparaître des métiers.
De celles et ceux qui la cultivent, nous entendons que la lavande est en danger. Une législation au niveau européen, appelée REACH, inquiète les producteurs-productrices qui récoltent plus d'une tonne de lavande par an. Cette réglementation impose en effet aux agriculteurs agricultrices de la filière la rédaction de dossiers drastiques et cela au même titre que toutes les entreprises manipulant et commercialisant des substances, des molécules chimiques, qu'elles soient naturelles ou de synthèse.
Ce qui est en plus complètement aberrant, c'est que une molécule de synthèse ne réagit jamais comme une molécule naturelle. Les molécules naturelles, elles sont complètement inoffensives pour l'homme et pour l'environnement si elles sont utilisées dans les règles de l'art. Bon, pour les huiles essentielles et notamment la lavande, on n'a que 2000 ans de recul. Donc pour certains scientifiques ou fonctionnaires, ce n'est pas suffisant. Mais moi, je considère qu'il n'y a pas d'enjeu de santé publique sur ces réglementations. Il faut de la réglementation, on est d'accord. Aujourd'hui, tout doit être pesé, mesuré et carré. Et si il y avait un danger, il faut informer les gens. Mais pour 99,9% des huiles essentielles, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas d'enjeu de santé publique. Et il n'y a pas de souci. Les huiles essentielles et les plantes, depuis des millénaires d'utilisation, ont plus apporté du bien-être aux gens que des malheurs et des accidents.
Contrôler, légiférer, au point que les exploitations agricoles comme celle des Quatre Vallées à Chamaloc soient, oui, effectivement en danger, car les coûts engendrés par une telle législation pèsent lourd dans la comptabilité d'entreprises modestes.
Moi, souvent, je pose la question, où sont les morts ? Ben, des morts avec les huiles essentielles, ça n'existe pas. Et pourtant, on en utilise des milliers de tonnes chaque année. Et un des gros problèmes aussi pour nous, c'est que ces réglementations ont des coûts absolument indécents. Sur la première vague de la réglementation REACH, nous, sur la filière lavande et lavandin, ça a coûté à peu près 1,2 million d'euros. Bon, la filière a payé. Aujourd'hui, on nous redemande des coûts qui vont peut-être être 10 fois ça. Et au niveau des tests, moi j'ai fait un petit peu le calcul à la grosse louche. Si il faut faire tous les tests qu'on nous demande, ça devrait coûter dans les 2 milliards. Bon, déjà on n'a pas les sous. Donc c'est réglé, on ne pourra pas faire des tests. Mais dans l'absolu, est-ce qu'on n'aurait pas autre chose à faire de cet argent-là, quoi, en ce moment? Voilà.
Producteur et distillateur de lavande depuis plusieurs générations dans le Diwa, Monsieur Alain Aubanel s'est engagé auprès du Syndicat national des producteurs de plantes aromatiques et médicinales afin d'influer sur les différentes prises de décision et actions impliquant la filière.
Là où on a quand même beaucoup d'espoir, c'est que on peut dire que quasiment 100% des élus français, les maires, les présidents de communautés de communes, les parlementaires, nous soutiennent, et d'un soutien absolument sans faille. Et au niveau de l'Europe, on a aussi le sentiment que ils voient pas vraiment le danger qu'il peut y avoir autour du produit naturel. Voilà. C'est plutôt dans certaines administrations françaises où c'est un petit peu plus compliqué. On a encore du travail pour convaincre les gens et on a aussi beaucoup de travail pour démontrer scientifiquement les choses. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, allez, un petit peu au doigt mouillé. C'est-à-dire que ben, quand on ne sait pas, c'est des fois plus facile d'interdire que d'autoriser. Et aujourd'hui, dans tout ça, il faut remettre un peu de bon sens paysan, il faut remettre de la raison et il faut surtout remettre de la science. Parce que quand on a des scientifiques qui font des études et qui démontrent que l'huile essentielle ou les plantes, c'est complètement inoffensif, voire même bénéfice pour la santé, comment derrière quelqu'un qui est dans un bureau, dans une administration, dit « oui, mais moi je pense que c'est potentiellement dangereux ». Ça veut dire quoi, potentiellement dangereux ? Monter en voiture, c'est dangereux, potentiellement, traverser la route et l'eau, c'est potentiellement dangereux. Hein. Si on en boit plus de 6 litres, on meurt. Voilà, c'est...
C'est presque du théâtre.
Et alors, du coup, est-ce qu'il faut un petit historique ?
Ben on le fera après tout à l'heure.
C'est après l'histoire. Après,
ouais,
donc là, c'est la visite.
La visite.
Ok.
Alors, on y va.
Venez, je viens vous faire visiter. Donc, on va aller vers les alambics et un peu dans les cultures, un peu au labo et au bureau. Bon, là, on a de la chance parce que c'est un grand soleil, donc c'est quand même mieux.
Notre territoire, au croisement de climats méditerranéens et alpins, dispose d'une diversité de plantes sauvages et de sols favorables à la culture de nombreuses espèces de ce que l'on appelle les simples. Une biodiversité que nous avons voulu explorer en allant à la rencontre des cultivatrices qui ont fait le choix d'entreprises plus petites encore et qui favorisent une production très diversifiée. Tout d'abord, Claire Montesinos. Paysanne herboriste.
On peut signifier quand même que ce terme paysan herboriste, on s'est assimilé à ce métier depuis relativement peu d'années. Depuis 2016, c'est pas si vieux que ça en fait. Mm-hmm. Alors que moi, je suis depuis énormément plus longtemps, mais je mettais pas ce mot-là parce que ben herboriste depuis 1941. Il n'y avait plus le diplôme qui était reconnu. Et après, ça a été un monopole de la pharmacie. Mais sauf que l'herboristerie, c'est la connaissance, la cueillette, la transformation des plantes médicinales. Mais ça appartient pas. Il n'y a pas de monopole de pharmacie là-dessus. C'est du commun des gens qui vivent à la campagne, déjà, et puis qui ont le goût de ça. Donc c'est même que ce soit une mère de famille, que ce soit quelqu'un qui en fait son métier, tout. Donc on n'avait pas le droit d'utiliser ce terme-là. Et ce qui est très nouveau, donc pour moi c'était compliqué. Un coup j'étais agricultrice, l'autre coup j'étais paysanne, mais j'aimais pas trop, mais j'étais pas vraiment paysanne. Moi j'étais les plantes médicinales, la cueillette, la distillation, donc c'était bizarre. Agricultrice, ben alors là encore moins, parce qu'avec tellement petite culture, parce qu'on cultive, mais on cueille beaucoup. Et du coup, quand on a cherché une dénomination pour notre métier, donc évidemment, je n'étais pas toute seule. Hein. Il y a eu des stages dans toute la France avec le syndicat des simples. On s'est dit, alors comment on va s'appeler ? Et donc, il y a eu plusieurs propositions. Et finalement, c'est celle-là qui a été retenue En fait, oui, on est bien des paysans herboristes.
Désormais sédentaire sur la commune de Barnave, tout à côté de Die, dans cette ferme que l'on nomme Solor, Claire et son compagnon Étienne, apiculteur transhumant, ont développé au fil des 30 années passées une production très diversifiée de pommes, mais aussi une large gamme de produits transformés issus des cultures ou des cueillettes, distillation et macération.
Paysans parce qu'on habite un pays et que quand on est... Quand on habite un pays, ben par exemple un éleveur qui va faire pâturer ses brebis sur une commune, il va quand même vraiment beaucoup connaître la commune. Il va faire les parcs, il va connaître les propriétaires des parcelles, il va connaître la végétation, comment ça pousse, si là c'est frugal, si là c'est généreux. Eh bien, le paysan herboriste, c'est la même chose avec les plantes médicinales. C'est-à-dire que lui, il vit dans une région, bah déjà sa petite ferme, s'il en a une, sa commune, et après ça s'étale un petit peu. Et donc, lui, en fait, il est très relié aux expositions, aux parcelles, aux forêts, aux propriétaires, parce que quand tu cueilles, tu demandes l'avis des propriétaires, est-ce qu'ils sont d'accord, pas d'accord, tu te crées un réseau, aux plantes. Quelle plante pousse ici ou quelle autre là, et les endroits généreux et les endroits arides où de toute façon on va rien cueillir parce qu'il n'y a pas grand chose qui pousse. Donc on est bien paysan, on habite bien un pays. Ça c'est la dimension du terroir. Et l'autre dimension du paysan, dans le terme paysan, c'est que quand même beaucoup on vend sur les marchés. Donc on est relié aux gens, aux habitants, par la vente de nos produits sur le marché. Voilà. Donc il y a le double, la dimension cueillette, culture, nature, et la dimension habitant, marché.
Sociale.
Voilà.
En plus du travail dans les terres et au labo, Claire et les autres petits producteurs se sont organisés en coopérative, mais aussi en syndicat. Le syndicat intermassif pour la production et l'économie des simples. Les simples.
Et herboriste, alors, ben, herboriste, du coup, c'est une grande joie d'oser mettre ce mot-là, qui était interdit, c'était pas normal, en fait. Il y avait quelque chose qui n'était pas normal que ça soit interdit, parce que c'est juste la nature des choses, herboriste. Il n'y avait pas de raison que ça soit interdit. Et alors, on n'a toujours pas le droit de s'appeler herboriste, mais on a le droit de s'appeler paysan herboriste.
Soutenus par le syndicat des simples, ils et elles ont pu faire reconnaître le statut de paysan herboriste. Un statut leur permettant de cultiver, de transformer, de commercialiser, mais aussi légitimement de conseiller l'usage de ces plantes pour ce qui est des bienfaits en matière de bien-être ou d'alimentation.
Donc ça c'est ma pièce de stockage. J'ai mes plantes sèches et mes produits finis.
Le petit lien d'air.
Là, il faut s'imaginer qu'on est au mois de février et que septembre, c'est à peu près...
Marion Dumontel.
Donc c'est bien rempli, quoi. Donc il y a une bonne diversité, là. J'ai à peu près... Cette année, j'ai fait 82 plantes différentes, entre feuilles et fleurs qui sont récoltées à la main. Mais du coup, tout ça...
Là où le mistral se fait sentir quand il souffle fort. En descendant la vallée, puis en direction de la Provence, nous avons fait la rencontre de Marion Dumonteil.
Du coup, installée en agriculture en plantes aromatiques depuis 2016, à Bonlieu-sur-Roubion. Et je viens du milieu de l'éducation populaire et de l'éducation à l'environnement. Et je me suis installée en plantes aromatiques avec la grande envie de faire surtout des plantes sèches et des tisanes.
Adhérente au syndicat Simple, productrice de plantes sèches et transformées, mentionnée Simple, commercialise en circuit court.
J'ai à peu près 58 plantes différentes qui sont cultivées donc pratiquement uniquement à la main. Il y a de temps en temps quelques interventions mécaniques avec des petits outillages. Et sinon tout le reste est réalisé vraiment jusqu'à la fin, jusqu'au conditionnement à la main. Donc pour donner un exemple, je récolte des fleurs, toutes fleurs à fleurs, des pétales, pétales à pétales, les feuilles des menthes, feuilles à feuilles. Donc ça c'est pour la partie cultivée. Et pour la partie cueillette sauvage, La majorité de mes cueillettes se font dans un rayon d'à peu près 40 km autour de la ferme, autour du champ. Et je cueille à peu près une vingtaine d'espèces différentes en milieu sauvage. Et je vais au plus loin, dans le Vercors ou en Ardèche, pour des plantes très spécifiques qu'on ne trouve pas dans le secteur en sauvage.
Inspirée par le désir de faire au plus juste, pour elle, la nature et les autres, elle crée le petit lien d'herbe.
Donc quand je cueille les fleurs, ou les feuilles, ou les tiges, ou les branches, ou les plantes entières, ou les racines, je les amène au séchoir, telles quelles. Des fois, je les tronçonne. Donc je les fais d'abord sécher, pour la très grande majorité. Pour une petite partie, elles vont par exemple être mises rapidement en sirop avec des plantes fraîches. Et donc pour cette grande majorité, je les amène au séchoir, je les fais sécher. Et une fois sorties du séchoir, elles sont pesées, triées, elles sont regardées pour voir s'il n'y a pas d'éléments étrangers au lot, etc. Et elles sont ensuite stockées. Et puis, dès la saison en fait, de récolte, je conditionne déjà parce que les lots se renouvellent et je vends tout d'une année sur l'autre. Pour la partie cosmétique, les plantes, je vais en utiliser une petite partie en plantes fraîches. Et la majeure partie du temps, j'utilise les plantes pré-séchées ou séchées, que je vais mettre à macérer soit au soleil dans un bocal couvert, soit que je vais faire au bain-marie pour mes huiles de soin. Et à partir de ces huiles de soin, je vais réaliser ensuite des baumes en ajoutant de la cire d'abeille et un tout petit soupçon d'huile essentielle. Parce que moi, je n'en produis pas d'huile essentielle. Et du coup, je me fournis auprès de collègues producteurs du syndicat Simple aussi. Voilà.
Comment tu as élaboré tes recettes de baumes ?
Alors, pour les baumes, avant de m'installer, je faisais déjà des essais. J'expérimentais déjà un petit peu des transformations. Et en fait, c'est tout simplement venu avec un besoin. Moi, j'avais besoin d'avoir à la maison un baume qui facilite la cicatrisation, qui évite les piqûres de moustiques. J'aimais bien l'idée d'un baume qui fasse un peu tout. Donc j'ai créé comme ça le baume à bobo. Et je l'ai perfectionné avec le temps, en ayant des retours d'amis, de la famille. Et puis au niveau des odeurs, au niveau de l'efficacité, je l'ai testé sur moi pendant plusieurs temps, et mes proches aussi. Donc mes deux baumes, en tout cas, je les ai élaborés comme ça. Et ça vaut de même pour les tisanes, en fait. Les tisanes, je les réalise, là c'est très spécifique, mais j'ai souvent 5 plantes dans mes mélanges et elles ont un caractère assez visé médicinal. Donc j'ai toujours 3 plantes qui ont une visée médicinale sur la sphère d'action que je souhaite viser dans ma tisane et 2 plantes complémentaires. Et à partir de là, les quantités, je les fais varier, je goûte aussi mes tisanes. Et en fonction de l'effet qu'elles ont sur moi, ou du goût, de l'odeur, et puis de l'ensemble sensoriel en fait, que la plante provoque, j'ajuste mes quantités et mes pourcentages, et puis je finalise comme ça mes tisanes.
Vous écoutez Il est une vallée sur RSF et Erdiwa. Des plantes aromatiques, médicinales et rebelles. Et puis, quelque part là-haut dans le Haut-Diwa, discrète dans la vallée, celle qui, dans son quotidien, cultive, cueille et transforme pour prendre soin de tout un chacun, chacune. Nous l'appellerons Juliette.
Bonjour, je suis productrice de plantes médicinales là dans le Diwa. Je fais essentiellement de la cueillette sauvage, je distille des plantes pour faire des eaux florales et des huiles essentielles. Et je transforme un peu, je fais des baumes, des huiles de soins. Voilà, donc des produits à base de plantes médicinales que je vends en direct sur les marchés.
Défenseur de savoir-faire, rien ne doit l'empêcher de partager ce qui soulage et guérit même.
Moi, j'ai d'abord commencé, je me suis beaucoup auto-formée en aromathérapie. Ça fait très longtemps que j'utilise aussi les huiles essentielles. J'ai ensuite fait une formation d'aromathérapie. J'ai d'abord été dans le conseil et la vente des plantes médicinales et des huiles essentielles. Et puis, j'en suis venue à la production en revenant vivre à la campagne et en me mettant du coup à cette activité-là que j'ai appris du coup auprès de d'autres paysans qui sont d'autres professionnels qui font ça aussi. Et du coup, c'est un peu la réappropriation d'un savoir populaire qui devrait rester accessible à tout le monde, en fait, hein, et qu'on essaye justement de nous empêcher de maîtriser et de transmettre par tout un tas de réglementations. Il y a aussi l'histoire de fait qu'en tant que producteur, on ne peut pas parler des produits qu'on vend, on ne peut pas parler des plantes qu'on vend.
Une autre législation européenne encadre la mise sur le marché de produits finis après transformation en baume, sirop, savon, tisane, macération ou tous les produits issus de la distillation. Et tout cosmétique doit disposer d'un dossier information produit rédigé par un médecin ou pharmacien. L'établissement de ces dossiers repose sur des bibliographies que seuls, d'après la loi, les universitaires sont aptes à comprendre et à valider.
Alors c'est un vaste sujet parce qu'on a des réglementations qui encadrent le volet alimentaire, le volet cosmétique, aussi les plantes qui sont autorisées vis-à-vis de la vente directe ou non. Moi, typiquement, je fais surtout de la vente directe. Donc, en effet, je dois rentrer normalement dans un cadre de 148 plantes autorisées à la vente libre. Et en dehors de ces plantes-là, je ne suis pas censée vendre certes, les autres plantes. En tout cas, elles sont réservées au monopole pharmaceutique ou autre. Donc, je peux les vendre en laboratoire ou en pharmacie, mais je ne peux pas les vendre en direct. Aussi, sur les plantes que l'on va vendre sur les marchés ou autres, on n'est pas censé expliquer à quoi servent nos plantes. Donc, les personnes qui viennent nous voir, en général, les clients viennent et demandent, parce qu'ils ne nous demandent pas de faire acte de médecine, d'être docteur, mais ils nous demandent si je prends de la mélisse, qu'est-ce que ça peut me faire ? Ou alors, j'ai un petit mal de tête et qu'est-ce que vous pourriez me conseiller ? À aucun moment, on se positionne en tant que médecin. On ne fait pas de diagnostic, mais on sait parler de nos plantes, on connaît leurs bienfaits. Et on devrait pouvoir normalement le transmettre, mais c'est interdit. Après, je mentirais en disant qu'on ne le fait pas. On le fait tous, c'est inévitable. Et en plus, pour ce qui me concerne, j'estime que c'est une meilleure sécurité aussi pour le consommateur de l'informer sur ce qu'il consomme. Parce que des informations, ils peuvent en trouver de partout aujourd'hui et que c'est important que l'information qui est sourcée, en tout cas, par des gens qui sont formés, qui connaissent les plantes, etc., ben, elle soit diffusée, elle soit transmise.
Claire, Marion et Juliette, fortes de toutes leurs connaissances, à la fois empiriques mais aussi engrangées lors de formations et d'échanges au sein du syndicat notamment, estiment cette réglementation peu adaptée à la réalité de leur travail et insuffisamment reconnaissante vis-à-vis de leurs compétences.
Il y a plusieurs sujets sur lesquels la réglementation est très contraignante pour les producteurs de plantes. Il y a deux sujets. Il y a le volet cosmétique où il y a l'industrie de la pharmacie et de la cosmétique qui nous impose des normes et des règles qui ne sont pas du tout taillées pour nous et qui sont plutôt pour nous mettre des bâtons dans les roues, où on devrait faire appel à un chimiste ou un pharmacien pour déclarer nos formules, du coup avoir pieds et poings liés et ne plus rien pouvoir changer de nos ingrédients sans à nouveau payer pour enregistrer les formules. Ça nous empêche aussi ça peut nous empêcher même de prendre des matières premières de producteurs locaux qui n'ont pas forcément tous les certificats disponibles pour cette réglementation-là. Enfin, ça pose pas mal de problèmes. À la base, c'est une réglementation qui est faite pour soi-disant la traçabilité, mais des grosses industries de la cosmétique. En fait, moi, j'ai aucun problème de traçabilité. Je récolte, je transforme, je vends moi-même. C'est pas du tout des choses par lesquelles je me sens concernée, en fait. Et je refuse qu'on nous applique ces choses-là. Ouais.
Basilic vert, basilic citron, cassis, framboisier, frêne, laurier, la calendula, vêche, mélisse, menthe de la gavotte, menthe verte, menthe poivrée,
menthe marocaine, du thym,
ortie,
de la verveine,
olivier,
de la rose,
du thym,
de la camomille,
du thym, alunamol, de l'épinage,
du sureau,
de l'estragon,
et bien d'autres encore.
En plus de donner des conseils en matière de bien-être et d'alimentation, les paysans, paysannes, herboristes revendiquent de pouvoir fournir également des indications sur les propriétés et usages traditionnels des compositions qu'ils et elles produisent et commercialisent.
Pourquoi c'est très intéressant de travailler sur cette reconnaissance du métier de paysan herboriste ? Et bien c'est justement par rapport aux conseils. C'est-à-dire que là, on n'a droit à aucune allégation de santé. On n'a pas les connaissances de faire des diagnostics. On ne connaît pas les médicaments, on est bien d'accord. Nous, on connaît notre métier. Cueillir, faire pousser des plantes, les transformer, les stocker dans de bonnes conditions et les vendre dans un circuit court à des gens soit qui les connaissent, soit qui sont contents de les trouver. Voilà. Donc jamais on pourrait imaginer qu'on va se mettre à la place du médecin ou du pharmacien. Rien à voir, quoi. Sauf que jusqu'à maintenant, on n'a pas le droit de dire les propriétés des plantes, alors que peut-être en France, on a 200 livres qui parlent des propriétés des plantes. C'est quand même un peu tordu, hein. C'est un peu compliqué. Parce que toi, si, imaginons, ça fait 10 ans ou 20 ans, en plus ça t'intéresse beaucoup, tu les utilises, tu n'as toujours pas le droit de dire bah, ça va servir à ça, 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 du moment que c'est quelque chose d'un sujet de santé. Voilà, ça c'était un peu le côté limitant de cette législation. Et on espère que cette législation va évoluer vers la reconnaissance de l'herboristerie en France.
Pour bénéficier du statut de paysan herboriste, les producteurs et productrices doivent faire valoir par les organismes compétents la solidité de savoir et d'expérience. Mais pour l'instant, Marion Dumonteil choisit de perfectionner ses savoir-faire dans le cadre d'un cahier des charges rigoureux tenu par le syndicat.
En fait, la mention simple, elle signifie qu'on suit ce cahier des charges qui a été écrit par le syndicat simple. En aucun cas, ça n'est un label. Et cette mention, nous, on peut la noter sur nos étiquettes pour que nos produits soient reconnus comme tels. Et en tout cas, le cahier des charges, il englobe des notions d'environnement, c'est-à-dire que l'environnement de production, de cueillette, doit être vraiment exempté de tout type de pollution, dans des endroits assez préservés. Nos gestes de cueillette et nos intentions sont visés sur du respect vis-à-vis du renouvellement de la ressource, de sa pérennité. Et puis, sur la production à proprement dit en culture, on a typiquement pas de bâches, pas de plastique, on ne fait pas de production sous serre, le moins de mécanisation possible, pas d'intervention mécanique dans les sols avant récolte. Et du coup, aussi, au niveau du tri, on est sur beaucoup du manuel et on essaye de respecter au maximum la plante de A à Z pour qu'à la fin, on ait un produit fini qui soit avec des critères organoleptiques comme des propriétés médicinales qui soient vraiment très présentes, quoi.
Et voilà, c'est l'endroit où on vient enlever des lots de fleurs séchées, les mauvais éléments, les adventices qui ont pu des fois se s'immiscer dans les lots. Ou autre. Et puis c'est l'endroit aussi où je fais mes mélanges de tisane, où j'agence les plantes ensemble, je les mélange et puis je les mets dans les sachets.
Afin de faire reconnaître la qualité de ses productions, Juliette a fait le choix, quant à elle, de faire certifier son travail par Nature et Progrès.
Oui, moi je suis adhérente à l'association, la Fédération Nature et Progrès, qui est la fédération historique de la bio en France, hein, qui était un label, enfin une mention du coup qui était présente avant la mention, avant le label AB. Qui n'est plus considéré comme un label bio parce qu'en fait Nature et Progrès a refusé de s'aligner sur le cahier des charges européen dans les années 2000-2010, je ne sais plus. Et du coup, on n'est plus considéré comme de la bio, on n'a plus de subventions à l'agriculture biologique, alors même que les cahiers des charges de Nature et Progrès sont bien plus exigeants en termes écologiques que le label AB en fait. Voilà, du coup, moi, c'est à ce cahier des charges-là que je réponds. Et puis, je suis sympathisante des simples, mais pour l'instant, je ne m'engage pas de tous les côtés, parce que la caractéristique de Nature et Progrès, c'est que c'est un label associatif. Et du coup, c'est les producteurs et les consommateurs qui vont faire évoluer les cahiers des charges, qui vont enquêter les différents producteurs pour vérifier s'ils correspondent au cahier des charges. C'est ce qu'on appelle un système participatif de garantie. Et du coup, c'est aussi hyper intéressant parce que ça produit beaucoup de réseaux aussi au niveau paysan. Ça produit beaucoup d'échanges et du coup d'expertise et de volonté. C'est une démarche d'amélioration continue, comme on dit là au niveau du cahier des charges, où du coup, voilà, c'est hyper enrichissant au niveau des échanges de ce côté-là, ouais. Et le cahier des charges, du coup, est vraiment... ça n'a rien à voir avec le cahier des charges de l'agriculture de AB, en fait. Là, il y a vraiment des considérations écologiques, mais aussi sociales. Aussi, on parle de l'éco, ouais, des écosystèmes en général. On parle, enfin voilà, c'est en tout cas un label plus exigeant et qui se rapprochera plus des simples, même s'il y a quand même des différences aussi. Ouais.
Oui, parce qu'il s'agit de prendre soin des plantes, bien sûr, de ce que l'on produit, mais c'est aussi prendre soin des humains, à la fois de ceux qui vont profiter de ces produits, mais aussi de ceux qui les travaillent, qui les transforment. Enfin, c'est un ensemble, peut-être. Il y a quelque chose comme ça.
Oui, c'est sûr. Oui, voilà, c'est ça. On fait partie du même écosystème, tous, les plantes, les hommes. Finalement, on est interdépendants et on a, voilà, effectivement, l'important, c'est de prendre soin des plantes et des hommes, des humains, pardon.
Le syndicat des simples, pour moi, c'est une grande famille. C'est important pour le volet transmission. Quand on est néo-agriculteur, néo-agricultrice, qu'on est jeune à s'installer et qu'on n'a pas la famille qui nous a accompagnés, soutenus ou légués des terres ou des bâtiments, c'est une chose. Mais quand on n'a pas la famille qui nous a transmis des savoirs, c'est encore une autre chose. Et pour moi, le syndicat simple, ça représente vraiment ce legs de transmission, d'informations, de pratiques... d'idéaux qui vont avec, et ça, c'est hyper précieux. On ne peut pas dire que quand on s'installe, on invente l'eau chaude. Et il faut déjà tremper ses doigts dans l'eau froide, on va dire. Mais des fois, on ne sait déjà même pas où la trouver, quoi. Et ces moments d'échange avec des producteurs qui sont dans les mêmes dimensions, les mêmes éthiques, etc., c'est vraiment des moments où moi, j'ouvre grand mes oreilles et je prends tout ce que je peux prendre d'expérience de ces gens-là, de retour d'expérience, parce qu'ils ont tenté des choses, ils ont essayé, ils ont leur mot à dire, ils ont leur passé. Et moi, ça m'aide à construire mes réflexions, à avancer aussi dans mes choix, parce qu'en agriculteur, on fait des choix, on en fait 150 à la journée quand on s'installe, et même encore un peu après. Et du coup, ça, c'est vraiment, vraiment très, très précieux.
C'est politique de cultiver des plantes et les transformer.
Je trouve, ouais. Pour moi, c'est militant. Et puis, ça parle d'un mode de vie qu'on essaie de vivre jusqu'au bout, donc d'une éthique. Et une éthique, c'est lié à une croyance à des valeurs. Et des valeurs, pour moi, ça peut pas être trop éloigné de la politique. Hein. On en est proche. Sauf qu'aujourd'hui, en politique, on parle que d'argent. Les valeurs, c'est l'argent. Donc, quand on parle de valeurs autres que de l'argent, on nous fait vite passer pour des arriérés, beatniks, bisounours, etc. Mais être ancré dans ces valeurs et aller les vivre plutôt que d'en parler et puis de faire la leçon aux autres, c'est déjà une bonne base. Et en tout cas, l'agriculture en général, je trouve que... Enfin, l'agriculture que moi je vis en tout cas et des réseaux que j'ai autour de moi, elle vit ça, quoi. J'ai des gens très terre à terre autour de moi qui sont assez ancrés. Je trouve ça chouette.
Est-ce que toi, tu te sens militante ?
Bah complètement. Moi, je pense que je suis militante jusqu'au bout des doigts. Après, ouais, je me sens tout à fait militante.
Ouais. Tu milites pour cette reconnaissance-là ? Tu milites, comment tu milites pour les plantes ?
Ouais, bah déjà, je fais partie de la Fédération de paysans herboristes depuis 3 ans. Là, par exemple, je suis déléguée de la Fédération à l'Europe, au comité interministériel qui discute sur la... Parce que ça, c'est encore... On va pas rentrer là-dedans, mais y a les huiles essentielles, malheureusement, font partie de la législation REACH qui, au niveau européen, légifère sur les produits de synthèse et les produits chimiques qu'on trouve en agriculture, dans la nourriture et tout ça. Malheureusement, les huiles essentielles en font partie. Elles ne devraient absolument jamais en faire partie parce que c'est des complexes composés et que quand ça sort de l'alambic, c'est absolument un produit naturel. Donc, on est bien en difficulté que ces huiles essentielles, depuis le début, fassent partie de REACH. Et donc, il faut arriver à les défendre et à défendre les producteurs puisque c'est les producteurs qui sont responsables de la mise sur le marché des huiles essentielles. Donc, nous, bien sûr, mais aussi l'avant de lavandin. Donc là, on est avec PAM de France, donc des gens qui nous complètent sur le territoire, mais qui ont, à part la distillation, pas beaucoup de choses en commun avec nous. Enfin, les plantes, mais c'est différent d'avoir 10 ou 20 hectares de lavandin et de faire le métier que je fais. Mais on s'entend bien et on a conscience qu'il faut mener les choses ensemble parce que pour être plus fort et pour avoir plus de compétences au niveau d'arriver à se défendre. Donc en effet, on pourrait être, donc la filière des plantes médicinales, évidemment, nous aide, ça c'est sûr. Après, ce qui est vraiment passionnant en ce moment, c'est qu'il y a des experts qui sont des pharmaciens qui ont créé des diplômes universitaires de phytothérapie, d'aromathérapie, qui nous aident à être experts pour nous démontrer, parce que c'est pas nous qui pouvons démontrer, nous on est producteurs, on va faire une bouture, on va semer, on va distiller, mais être expert pour démontrer dans une législation vraiment à s'arracher les cheveux, que c'est juste impossible. Donc en effet, il faut des personnes compétentes. Et notre chance immense, c'est que ces personnes compétentes travaillent avec nous. Et ça, c'est une joie, en fait. Et pour moi, c'est absolument nouveau. C'est 6 mois, quoi. Et voilà, donc en fait, ça donne confiance.
Ça donne confiance, oui. Parce qu'ensemble, sensibles aux soins qu'ils et elles portent à notre écosystème, la faune, la flore et notre humanité confondues, les producteurs, productrices de PAM résistent avec inventivité. Fédérés autour d'une activité agricole précieuse, ils et elles font peu à peu reconnaître tout leur savoir-faire et les bienfaits de toutes ces plantes si généreuses. Généreuses, oui, et sensibles, fragiles. Alors, si les plantes peuvent nous rendre plus forts, à bon entendeur, salut.
Framboisier, frêne, laurier, lavande fine, livèche, mélisse, menthe bergamote, menthe verte, menthe poivrée, menthe marocaine, ortie, olivier, du thym citron, du thym alinalol, de l'échinacée, de l'estragon, de l'artichaut.
C'était des plantes aromatiques, médicinales et rebelles. Avec la participation de Alain Aubanel, Claire Montesinos, Juliette, Marion Dumonteil. Merci à vous tous et toutes qui nous avez confié vos voix. Une réalisation pour RSF et RDIWA. À bientôt. Et si vous voulez encore mieux comprendre tous les enjeux que rencontre la filière des PAM, rendez-vous au colloque en Biovallée qui aura lieu à Eure du 10 au 12 mars 2022. Retrouvez le programme sur le site de l'association Biovallée.